à la une ce soir.
Bonjour, Canada.
Visite de Joe Biden, le président des États-Unis livre un discours chaudement accueilli.
The United States chooses to link our future with Canada because we know that we'll find no better partner.
On s'en doutait, mais les chiffres le confirment. Il y a de plus en plus de violence dans les écoles.
Il y a une tendance et elle est partout au Québec. Des cas de violence avec une intensité assez extrême et des armes qui sont saisies.
Et quand nos médecins ont aussi besoin d'aide.
Ça ne cesse d'augmenter.
Ça fait 35 ans que je suis médecin de famille. C'est du jamais vu.
Voici votre fil de la journée. Bonsoir, bon vendredi. C'était un discours attendu. La Chambre des communes était pleine à craquer aujourd'hui pour la locution de Joe Biden, qui a abordé une série d'enjeux qui touchent le Canada et les États-Unis. M. Biden s'est même permis une petite pointe d'humour. On sera en mesure d'écouter des extraits de ce discours qui a duré à peu près une trentaine de minutes. Tout de suite, on peut aller sur des images en direct d'Ottawa. Vous voyez donc Justin Trudeau en compagnie de M. Biden. C'était le point de presse, donc, qui fait suite à ce fameux discours où différents enjeux ont été abordés. Bien sûr, la fermeture du chemin Roxham est revenue dans les discussions. Ça a coulé hier comme une forme de fuite. Aujourd'hui, ça a été confirmé. On a eu de plus amples détails. On sait qu'à partir de minuit ce soir, les migrants irréguliers donc seront refoulés, si on veut, au chemin Roxham. Je suis en compagnie de Victor Henriquez, spécialiste en gestion de crise et relations publiques. Bonsoir, Victor.
Bonsoir, Marie-Christine.
C'est important quand même ce genre de discours-là. On a vu un Joe Biden qui s'est permis de faire des blagues également, parler en français un petit peu. Mm-hmm. C'est quoi ta lecture de cette visite-là de M. Biden?
D'abord, on est de retour à une amitié, je dirais, plus saine entre le Canada et les États-Unis. Dans les années de Donald Trump, ça avait été difficile. Dans le cas de M. Biden, ici, on est arrivé dans une ambiance plus bon enfant. Hier reçu, on a vu M. Trudeau sans cravate hier, lorsqu'il l'a reçu d'ailleurs. Et aujourd'hui, dans son discours à la Chambre des communes, M. Biden était plus décontracté. Donc, vraiment, on a cette amitié-là qui est tellement importante pour le Canada. On le rappelle, un premier partenaire commercial des États-Unis, mais également aussi un partenaire important au niveau politique, au niveau international. Donc, c'est une visite qui était très attendue et qui arrive peut-être même un peu tard dans le mandat de M. Biden. Je suis sûr que du côté d'Ottawa, on aurait espéré que ce soit plus rapide.
Oui, bien sûr. Et puis, évidemment, la question du chemin Roxham, j'en parlais tout à l'heure, ça, c'est franchement important. Et M. Biden semble être très fier d'annoncer cette entente-là, au final.
Tellement, et chapeau pour la négociation. Il faut le dire, M. Trudeau n'a pas créé d'attente exagérée. On avait des signaux d'ailleurs assez négatifs jusqu'à très récemment. Et à un moment donné, on a arrêté à entendre parler. Mm-hmm. Et hier, on a eu cette fuite-là comme quoi l'entente sur le tiers pays sûr s'appliquerait à tout point d'entrée à la frontière. Et ça change énormément de choses parce qu'on savait qu'il y avait cet enjeu-là entre les États-Unis et le Canada. On se demandait si les États-Unis s'inquiétaient vraiment de cet enjeu-là. Je pense que de la part de M. Biden, c'est une démonstration à M. Trudeau que lorsqu'il lui parle de quelque chose, il y a une oreille attentive de l'autre côté. Et bravo aux différents ministres qui sont déplacés à Washington de façon discrète, dont le ministre d'Immigration, pour réussir à débloquer ce dossier-là. Je suis sûr qu'à Québec, entre autres, on est très heureux.
Ouais. Mais il y aurait quand même des conséquences à cette fermeture-là. Ce sera donc à minuit ce soir. On sera en mesure, peut-être un petit peu plus tard, de parler à nos équipes qui sont sur le terrain, justement, au chemin Roxham, parce qu'on avait peur qu'il y ait eu une fuite hier, qu'il y ait de nombreux migrants qui afflue, mais aujourd'hui, ça a été quand même relativement calme, mais il va y avoir des conséquences. C'est inévitable.
C'est sûr qu'il y a des conséquences. Il faut le rappeler. Hein. Les États-Unis ont un problème à frontière sud et à frontière nord. On vient de régler le problème à frontière nord, mais on n'a pas encore réglé celui à frontière sud, parce qu'il y a 2 millions de personnes environ qui passent régulièrement cette frontière-là. Donc, du côté de M. Biden, des États-Unis, on va prendre ses responsabilités, mais c'est sûr que pour ces migrants-là, où est-ce que le Canada représentait une terre peut-être un peu plus sécuritaire, parce qu'on va se le dire, les migrants sont traités d'une façon difficile aux États-Unis. Les lois sont extrêmement différentes d'un État à l'autre. On connaît la réalité des clandestins aux États-Unis. Donc, c'est sûr que le Canada était une terre extraordinaire pour eux. Maintenant, cette porte-là vient de se fermer dans une certaine légalité. Donc, on verra ce que ça donne.
On dit que la porte vient de se fermer, mais il n'y aura pas quand même de barrières, il n'y aura pas de clôture, il n'y aura pas de policiers. Donc, est-ce que c'est une fermeture qui est plus symbolique?
Il faut savoir que, dans le fond, ce qu'on comprend, c'est que si une personne est attrapée et emprisonnée ou elle est interceptée dans les 14 jours qui suivent son entrée, elle sera renvoyée à la frontière. Et ça change beaucoup pour les gens qui passent, parce qu'on a vu des gens passer avec des familles, on a vu des gens passer avec des enfants. On ne peut pas nécessairement rester 14 jours dans le bois avec des enfants. Alors, c'est sûr qu'on va aussi devoir augmenter la sécurité à ces frontières-là. L'enjeu n'est pas réglé, mais rappelons-nous, Roxham avait été cet espace qui s'était ouvert, qui amenait des flux massifs de gens. Cette partie-là, on vient de la régler. Maintenant, il reste toute la gestion des migrants.
40 000 personnes ont emprunté le chemin Roxham en 2022. Et Victor, on est en mesure d'aller voir justement sur le terrain comment ça se passe avec Camille. Donc, Camille, tu es tout près du chemin Roxham. Raconte.
Oui, c'est ça. Donc, pour l'instant, il n'y a rien qui semble avoir vraiment changé. Le flux ne semble pas plus important que d'habitude. Nous, on est arrivés en début d'après-midi. On a vu deux familles traverser, là, dont une famille avec deux jeunes enfants, la maman enceinte. Et donc, comme c'est le cas depuis les derniers mois, comme pour les 40 000 personnes qui ont traversé en 2022, le douanier les a interceptés, leur a expliqué que ce qu'ils allaient faire était illégal, qu'ils n'avaient pas le droit d'entrer par là. Leur a demandé s'ils comprenaient bien. Oui, donc là, ils ont traversé. Puis c'est ça, on parle beaucoup de fermeture, mais pour l'instant, on comprend qu'il n'y aura pas de clôture ou de barrière. La seule chose, je vous dirais, qui a changé, c'est qu'on a retiré, on a changé les affiches qui donnent sur le côté américain. Donc avant, il y avait une affiche qui disait, bon, qui expliquait « demandeur d'asile au Canada ». On a enlevé cette affiche-là. On l'a remplacée par une nouvelle affiche, mais pour l'instant, le texte est voilé. Il peut être seulement visible à partir de minuit ce soir.
Ah oui. Et puis, comment réagissent les gens du coin? Parce qu'on comprend qu'il y a énormément de va-et-vient depuis plusieurs années là, dans le secteur.
Oui, je vous dirais, ce qu'on sent là, comme sentiment là, sur le terrain, c'est que les gens sont un peu irrités par la présence des médias d'ailleurs. On n'a pas été super bien accueillis. Les gens ont hâte que ce va-et-vient-là cesse, mais la question qui reste, c'est est-ce que ça va vraiment cesser? Parce qu'il y a une dame qui habite tout près d'ici depuis une vingtaine d'années. Elle me disait, elle n'a pas voulu parler à la caméra, mais elle me disait que avant qu'il y ait cette guérite, c'était encore pire dans un sens parce que les gens passaient un peu partout dans le bois, la police les pourchassait, donc c'était encore plus effrayant. Et donc là, maintenant, de quoi ça va avoir l'air avec cette fermeture, entre guillemets-là? Il y a aussi une autre dame à qui j'ai parlé qui habite depuis une vingtaine d'années aussi dans le coin. Elle est d'origine haïtienne et elle a trouvé que c'était une décision complètement irresponsable parce qu'on ne semblait pas organisé pour soutenir ensuite ces migrants-là parce que selon elle, ça va continuer. Les gens vont continuer de passer, ils vont trouver un moyen, mais de quoi ça va avoir l'air puis comment on va s'occuper d'eux par la suite? C'est des questions qui restent en suspens.
Merci beaucoup, Camille.
Au revoir.
L'école secondaire Jacques Rousseau à Longueuil, un adolescent qui a été poignardé.
Alors, l'école secondaire Calixa-Lavallée, ça a été le théâtre hier d'une attaque marteau.
Dossier troublant, vous allez voir, sur les saisies d'armes.
Dans nos écoles secondaires et primaires.
Ces jeunes rencontrés dans un parc juste à côté d'une école secondaire avaient des matraques en leur possession.
Oui, on vous en a parlé à plusieurs reprises hein, de la violence dans les écoles. Les policiers interviennent de plus en plus dans les établissements scolaires. À Montréal, les cas d'incidents violents ont presque doublé en 5 ans. La députée libérale Marois Risky a interpellé le ministre de l'Éducation à ce sujet-là. Bernard Drinville s'est dit extrêmement inquiet par toute cette violence et dit plancher sur une stratégie. Voici ce qu'a préparé Marie-Michèle Lauzon.
La dernière année scolaire a été, de façon générale, la plus violente des 5 dernières années dans la grande majorité des écoles primaires et secondaires du Québec. Selon le décompte des interventions policières, la Sûreté du Québec a enregistré 1175 événements violents dans les écoles de son territoire l'an passé. À Laval, la police a répertorié pour 2021 et 2022 205 événements, 219 dossiers à Gatineau. Et à Montréal, le nombre de voies de fait dans l'ensemble des établissements scolaires est passé de 45 en 2017 à 80 pour 2022. C'est sans équivoque, il y a de plus en plus de violence dans nos écoles, de la violence psychologique et de la violence physique. Et le dossier a une fois de plus rebondi du côté de l'Assemblée nationale.
Ça marche pas, là. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Je veux pas qu'on commence à ressembler là, à ce que moi j'ai déjà vu quand j'étais en Floride, justement, des écoles avec des détecteurs. L'école, là, c'est supposé être le plus bel endroit. Nous, là, c'est à nous de travailler ça dès maintenant pour dire on trace la ligne, on prend ça au sérieux, on va mettre les bouchées doubles s'il le faut, mais on va travailler ça en amont. Là.
Les corps policiers font déjà beaucoup de travail et moi, je dois vous dire, s'il faut ajouter des moyens pour lutter contre ce fléau, on va le faire. Ça fait déjà un certain temps qu'on travaille sur une stratégie pour lutter contre la violence dans les écoles et on annoncera... ce que contiendra cette stratégie en temps et lieu.
Les centres de services scolaires ont aussi enregistré un bon marqué de leurs dossiers de violences traitées à l'interne. Par exemple, au centre de services scolaires des Affluents dans la Naudière, on est passé de 556 cas de violences physiques en 2018-2019 à 1596 en 2021-2022. Ça a donc triplé depuis la pandémie. Et ça, ce n'est qu'une infime partie de la réalité parce que personne n'ose dénoncer ce qui se passe réellement dans nos écoles.
Peur de parler à leur syndicat, il y en a beaucoup qui se disent que ça va donner. Ça quand tu es rendu à dire ça, ça veut dire qu'il y a un gros problème. Nous, de notre côté, on a même interpellé le gouvernement en disant « qu'est-ce qu'on peut faire ensemble ?» pour envoyer un message que c'est tolérance zéro, parce que je suis pas sûr. On dit tout d'emblée, ben oui, c'est sûr que c'est tolérance zéro. Mais après ça, il faut s'entendre sur c'est quoi le geste qu'on ne tolère pas. Puis là, déjà là, on s'entend pas là-dessus. Quand vient le temps de parler des armes, ben il faut s'assurer que la réponse va être la même pour tout le monde, puis qu'on dira pas ça s'est pas fait sur le terrain de l'école ou il y a peut-être telle ou telle affaire qui est arrivée. C'est un bon élève, donc c'est une première infraction, donc c'est moins pire. Il y a tout ça, là. On a besoin que les parents participent, là. Puis que pour les parents aussi, c'est tolérance zéro, puis qu'on ne cherche pas à justifier un geste ou une parole. Et c'est souvent ce qu'on fait présentement. Dans nos milieux, dans le réseau, aujourd'hui, on est encore à agir comme il y a 10 ou 15 ans, avec des codes de vie de il y a 10 ou 15 ans. Maintenant, il faut agir rapidement pour arrêter tout ça. Et c'est là que la tolérance zéro, c'est là que s'assurer que toute la société est bien au fait de ça et qu'on agisse après ça dans les milieux. C'est pas un problème dans une école, c'est pas un problème dans un centre, c'est pas un problème de syndicat, c'est pas un problème de personnel, c'est un problème de société.
Un peu plus d'une semaine après l'incendie mortel qui a coûté la vie, je vous le rappelle, à 7 personnes dans le Vieux-Montréal, on apprend que la plateforme Airbnb va finalement retirer les annonces sans permis. Tout de suite, j'en discute avec Sabrina. Sabrina, c'est ce que demandait la ministre du Tourisme, Caroline Proulx.
Oui, voilà, exactement. Donc, depuis le début de la semaine, en fait, elle voulait qu'on resserre, en fait, tout ce qui était autour de Airbnb et la location, en fait, de résidence. Et là, bien, ça devrait être en vigueur au cours des prochains jours. C'est ce qu'on nous a dit, en fait. Et ce que ça veut dire, c'est que, dans le fond, Airbnb va s'assurer elle-même, donc la plateforme, que tous les autres qui affichent des endroits pour des locations respectent, en fait, la loi québécoise et devront s'inscrire auprès de la Corporation de l'industrie touristique du Québec. Donc, Airbnb aussi, qui va faire des campagnes de sensibilisation auprès des gens qui affichent des résidences pour qu'ils connaissent correctement les exigences. Donc, ceux et celles qui vont louer, en fait, des endroits devront maintenant avoir un numéro d'enregistrement. Mm-hmm. Sinon, ils vont voir leur résidence, en fait, supprimée de la plateforme
Airbnb. Ça doit être affiché.
Et d'ailleurs, bien, il y a eu une réaction de la ministre Caroline Proulx qui a réagi sur les réseaux sociaux. Vous le voyez à l'écran. Elle a dit « satisfaite de la décision d'Airbnb de se conformer à notre législation comme exigé hier ». Lors de notre rencontre, je demande également aux autres plateformes de s'y conformer. Je reste toutefois ferme quant à mon intention de resserrer la loi sur l'hébergement touristique. Il faut dire que ça existe quand même depuis 2018, en fait, qu'il faut avoir un numéro d'enregistrement pour être en mesure de faire des locations ici au Québec.
Bon, et pendant ce temps-là, bien, les recherches se poursuivent évidemment dans les décombres de l'édifice pour retrouver les autres victimes.
Oui, parce qu'il reste toujours 3 personnes qui sont portées disparues dans les décombres. Donc, ce qu'on a appris un petit peu plus tôt quand même aujourd'hui, ce matin, dans un point de presse du service de police de Montréal, c'est qu'il ne devrait pas y avoir de victimes supplémentaires. Donc, on parle toujours de 7 personnes qui sont portées disparues, 4 qui sont bel et bien décédées, 3 qu'on devrait toujours rechercher dans les décombres. Il y a une grue supplémentaire qui a été amené sur le terrain. Il y a les pompiers aussi, quand même, parce qu'on parle d'un bâtiment patrimonial, ont précisé aujourd'hui qu'ils allaient être en mesure de garder quand même la façade de l'immeuble. Et puis là-dessus, bien, tout de suite, on peut aller écouter une réaction.
L'identification des deuxième, troisième et quatrième victimes retrouvées se poursuivent. Alors, on est très conscient que l'attente est toujours très lourde et pénible pour les familles. Nos enquêteurs maintiennent les contacts avec elles. Et à ce stade-ci, on peut vous confirmer qu'hormis les 7 personnes qui manquaient à l'appel initialement, nous ne détenons aucune information à l'effet que des victimes additionnelles se trouveraient dans les décombres.
On va surveiller ça, évidemment, de près encore une fois. Merci beaucoup, Sabrina.
Merci à toi.
On se voit tantôt. Maintenant, 3 ans après le début de la pandémie et alors que le réseau de la santé est en pleine transformation, comment se porte la santé mentale des médecins québécois? Bien, la réponse n'est pas très rassurante. Un nombre croissant de médecins se tourne vers le programme d'aide aux médecins du Québec pour obtenir de l'aide selon des données obtenues par Nouveau Info. Les détails avec Louis-Philippe Bourdeau.
3 ans de pandémie, des réformes, encore des réformes, de la pression politique et médiatique, une pénurie de main-d'œuvre qui est loin de se résorber. Le réseau de santé québécois est bousculé d'un côté comme de l'autre depuis un bon moment déjà. Et ça a un impact bien réel sur la détresse psychologique des médecins québécois.
Ça ne cesse d'augmenter.
Ça fait 35 ans que je suis médecin de famille. C'est du jamais vu.
Pour affirmer ça, des experts se basent sur plusieurs données. Par exemple, en moins de 2 ans, les demandes au programme d'aide aux médecins du Québec ont fortement augmenté.
2022, on avait 23% d'augmentation et là, jusqu'à maintenant, on a déjà un 15% d'augmentation si on compare les mêmes périodes avec l'année dernière. Les motifs vraiment les plus fréquemment mentionnés, ça demeure l'épuisement. Pas loin derrière les conditions de travail avec la pression qui ressente due aux différentes lois, réformes dans le système de santé.
Il y a quelques mois à peine, l'Association médicale canadienne publie il y a aussi un rapport dans lequel on identifiait une détérioration marquée de la santé mentale des médecins par rapport à la pré-pandémie. Au Québec, 60 % d'entre eux disaient avoir eu des symptômes d'épuisement professionnel. 22 % vivaient avec l'anxiété, modérée ou sévère, et près de la moitié avaient des signes de dépression. Et tout indique que la situation se serait détériorée depuis la publication de ces données.
Nos patients sont plus vieux, ils vivent plus longtemps, mais aussi ils vivent malades. Donc, ce sont des cas plus lourds dont il faut s'occuper. Donc, le quart de nos médecins à l'urgence sont actuellement en arrêt de travail pour épuisement professionnel. On voit que le ministère le reconnaît. Ils prennent des mesures. Maintenant, on veut voir des résultats concrets. Il faut que ça arrive bientôt. Là. On ne peut pas attendre 2 ans.
Pour vous et moi, la pandémie, c'est peut-être devenu un certain bruit de fond dans notre quotidien. Mais la réalité est tout autre entre les murs des hôpitaux.
Dans les hôpitaux, c'est encore bondé de monde, que ce soit des délais dans certains domaines. Bien, maintenant, on met les bouchées doubles pour compenser.
On n'a jamais vu le nombre de patients en attente de chirurgie, le nombre de patients en attente de traitement pour le cancer, le nombre de patients en attente de traitement d'opération pour une prothèse de hanche.
Aux États-Unis, il y a plusieurs études qui le confirment. Les professionnels de la santé, dont les médecins, sont plus à risque de s'enlever la vie. Au Québec, les données sur le suicide sont limitées et sont rarement ventilées par profession. Ce serait pourtant des données utiles aux chercheurs pour mieux saisir l'ampleur du problème et donc mieux prévenir l'irréparable.
C'était environ 12 % de nos clients qui mentionnaient avoir eu des idées suicidaires. C'est loin d'être banal. J'ai fait la demande il y a quelques années pour avoir peut-être un registre. Mais on pense que ça pourrait être un outil pour essayer d'identifier des facteurs de risque et des facteurs déclencheurs un peu plus précisément.
Le chroniqueur Gilles Proulx tient des propos controversés et dénoncés par toute la classe politique. On vous explique tout ça dans quelques minutes. À tout de suite. Des propos qu'a tenus le chroniqueur Gilles Proulx à l'endroit des députés de Québec solidaire durant une émission sur les ondes de Cube Radio suscitent l'indignation chez plusieurs élus de l'Assemblée nationale. Alors, Simon, Gabriel Nadeau-Dubois se dit offusqué et réclame des excuses.
Oui, offusqué et ébranlé, c'est les termes utilisés par Gabriel Nadeau-Dubois, le co-porte-parole de Québec solidaire, pour qualifier son état d'esprit là, en lien avec ce qu'il a publié hier d'abord sur Twitter et sur son compte Instagram. Là, vous allez voir à l'écran des propos qui sont assez violents, orduriers, tenus par Gilles Proulx sur les ondes de Cube Radio à l'égard de Québec solidaire, le parti... de manière un peu plus générale. Il faut dire que Gilles Proulx s'est défendu dans les heures qui ont suivi la sortie de Gabriel Nadeau-Dubois pour dire, écoutez, lorsque j'ai tenu ces propos, je ne parlais pas de Québec solidaire, je parlais plutôt de la majorité francophone opprimée par la minorité anglophone à une certaine époque au Québec. Donc, c'est sa défense. Par contre, n'empêche que Gilles Proulx a souvent utilisé des qualificatifs assez irrespectueux, voire orduriers, lorsqu'il parlait de Québec solidaire et d'autres formations politiques également. Je veux entendre la députée solidaire de Sherbrooke, Christine Labrie.
Ce qu'on demande à toutes les personnalités public en particulier, c'est de prendre leurs responsabilités, de ne pas eux-mêmes décider d'intervenir si jamais ça se produit dans le cadre de leurs émissions, parce qu'on a un exemple à donner quand on a une tribune. Et ceux qui veulent défendre des propos comme ceux-là, ça leur appartient. Mais nous, on n'a pas l'intention de retourner sur les ondes de Cube Radio tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas eu d'excuses.
Et Simon, il faut dire que des élus de tous les partis politiques dénoncent ces propos-là.
Oui, assez rapidement, il y a eu des réactions d'un peu partout. Le premier ministre François Legault qui a pris la peine de sortir lui aussi sur Twitter pour dénoncer. Le chef libéral Marc Tanguay aussi. Il y a Paul Saint-Pierre Plamondon du Parti québécois qui a été bon un petit peu plus prudent, il faut le dire. Là. Lui, s'est fié à la défense qu'a dit Gilles Proulx, mais qui condamnait quand même tout propos irrespectueux, violent ou ordurier tenu sur les ondes là, envers des personnalités publiques puis envers quoi que ce soit, finalement. La libérale Marois Risky, elle, a été ciblée par des menaces de mort lors de la dernière campagne électorale. Ça l'avait beaucoup ébranlée. Elle avait vertement dénoncé ça sur toutes les tribunes. Je lui ai parlé tout à l'heure.
Le climat en général, je pense que nous, les élus, on en a beaucoup parlé. Ça a été un climat qu'on a trouvé délétère. C'est sûr qu'on a fait un appel à tous, quand les élus, c'est de calmer le jeu. Il faut faire attention, les mots comptent, puis les mots ont des conséquences. Puis d'ailleurs, chaque élu, bien, il y a d'abord un être humain avec une famille, puis un impact.
Donc, il n'y a pas d'excuses toujours là, du côté de Gilles Proulx ni de Cube Radio. Il faut dire que M. Proulx là, a cumulé 8 blâmes par le Conseil de presse depuis le début des années 90 jusqu'à tout récemment, il y a quelques mois.
Oui. Merci beaucoup, Simon.
Au revoir.
Et je retrouve mon collaborateur ce soir spécial, Victor Henriquez. Victor, qu'est-ce que tu penses de ces propos-là?
J'ai cherché le mot parfait, je ne l'ai pas encore trouvé, mais c'est complètement inacceptable. Mm-hmm. Quand on a le privilège, parce que c'est un privilège de parler aux gens, de leur parler, on a le devoir d'être un exemple. Mm-hmm. Quand j'ai entendu ces propos-là, j'y prouve, ce n'est pas la première fois, hein, il a traité des gens de bâtards, on veut faire ci, on veut faire ça. C'est complètement ridicule qu'on donne encore une tribune à ces gens-là. On le sait comment il y a des montées de violence. Me semble qu'on a vécu des choses, me semble qu'il y a eu le caporal Lortie, il y a eu l'attentat au Métropolis, il y a eu les menaces aux élus. Me semble qu'on est passé à travers ça, qu'on aurait dû comprendre. Et je trouve que c'est triste de devoir encore répéter, mais je m'attends à ce que le public fasse comprendre le message.
Ouais, mais qu'est-ce que tu réponds à ceux qui pourraient dire, bon, c'est la liberté d'expression, il y a le droit à son opinion?
Non, liberté d'expression, à un moment donné, il y a aussi le fait d'avoir la responsabilité qui vient avec l'expression. Parce que les mots ont une signification, les mots blessent, mais les mots attirent aussi des conséquences. Marois, ce qu'il disait, ces gens-là ont des familles, mais c'est pas juste des familles, c'est que ces gens-là sont sous la loupe du public. Oui. On les critique, on les juge, et c'est correct qu'on le fasse. Mais à un moment donné, il y a un vocabulaire qui vient avec ça. La langue française est suffisamment riche pour qu'on puisse les juger et les condamner et ne pas être d'accord avec eux et débattre avec d'autres mots que ceux qui sont utilisés. Puis je trouve que c'est triste parce que c'est pas seulement la personne, hein, c'est en général. Faut pas faire de l'agisme ici. C'est pas parce que M. Proulx est passé date. Parce que cette personne-là est allée trop loin, quel que soit son âge, quel que soit l'endroit où est-ce qu'il est. Quelqu'un qui a une tribune publique devrait montrer l'exemple. Oui. On demande aux gens de ne pas avoir ces propos-là. Venant de sa part, c'est inacceptable.
Qu'on ne cesse de dire qu'il y a du harcèlement dans les écoles, de faire attention, on parle à nos jeunes. Donc, est-ce que ce genre de propos-là, ça vient aussi attiser la haine à quelque part?
C'est que la réaction, c'est de se dire, si lui peut le dire dans une tribune de radio, je peux bien aller dire ça sur Twitter, je peux bien aller dire ça dans la cour d'école. Je veux dire, les gens réagissent, on est une société. Et moi, c'est ça qui me frappe, c'est ce rôle des communications. On le sait, puis Marie-Christine, tu le sais mieux que moi, on a la possibilité de parler aux gens et d'influencer. Faisons-le d'une bonne façon et faisons-le dans une bonne intention.
Qu'est-ce qu'un diffuseur doit faire dans ce temps-là? Qu'est-ce que tu leur conseillerais ou lui conseillerais à ce diffuseur?
La première chose que j'aurais conseillé, c'est de s'excuser. Mm-hmm. Parce que la première étape, c'est de dire, bon, on reconnaît ce qui s'est passé. Il faut absolument reconnaître ce qui s'est passé. Moi aussi, je m'attends à ce qu'il y ait des gens qui mettent de la publicité dans ces radios-là, qui appellent le diffuseur pour lui dire, bon, là, par exemple, je ne suis pas sûr que je veux m'associer à ce genre de propos-là. Mm-hmm. Donc, du côté du diffuseur, on s'excuse. Ensuite, on retire des ondes, ne serait-ce que pour une période de temps, le temps de voir quelle est la réaction, puis de permettre à la personne aussi de comprendre l'ampleur de ce qu'il a dit. Mm-hmm. Et ensuite, on prend des décisions finales, parce qu'ultimement, il faut prendre en charge une situation comme celle-là. C'est grave.
Oui. Quand même beau, quand même, de voir cette unité de tous les partis politiques qui dénoncent, peu importe le parti politique, et qui se range derrière, finalement, Gabriel Dubois dans cette affaire.
C'est tellement important, que ce soit à travers lui ou un autre, il faut que la classe politique parle d'une seule voix. Il faut également qu'elle agisse d'une seule voix. Il faut que les bottines suivent les babines. Donc, j'ai hâte de voir comment la classe politique va traiter le fait qu'il y a un silence jusqu'à maintenant. Je pense pas que ce silence-là doive durer très longtemps.
Victor Henriquez, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir.
Merci. Bonsoir.
Une nouvelle vous fait réagir, vous avez une histoire à partager, un sujet d'enquête à nous transmettre. Je vous invite à nous écrire à l'adresse courriel suivante, manouvelle@commercialnouveau.info. C'est l'heure de retrouver notre animateur des bulletins locaux, Jean-Simon Buis. Bonsoir à toi.
Bonsoir, Marie-Christine.
Donc, la ville de Lévis décide d'interdire les Airbnb en zone résidentielle?
Oui, tu en parlais un peu plus tôt avec Sabrina, ben oui, d'Airbnb, la nouvelle réglementation sur les permis. Ça fait beaucoup jaser sur les réseaux sociaux parce qu'imagine-toi donc, tu demandes à la région de Québec, il y a beaucoup de gens là, qui font du Airbnb pas tout à fait légal. Donc, ça fait beaucoup réfléchir. Et à Québec, on a décidé pour l'instant de ne pas vraiment changer la réglementation. Mais à Lévis, on va carrément à l'inverse de ce que Québec vient de faire, c'est-à-dire permettre Airbnb partout dans la province. Ce qu'on veut, en fait, c'est protéger un peu le calme des résidents. Donc, on ne va pas l'interdire partout sur le territoire de Lévis, mais tout ce qui est zone résidentielle, donc propriétaire de maison, résidence principale, ça va être interdit. Je vous invite à écouter le maire Gilles Loulier à ce sujet.
On a la conviction profonde que dans les quartiers résidentiels, les gens veulent avoir une certaine quiétude. Si on n'intervient pas, les hébergements touristiques dans les résidences principales vont être permis sur l'ensemble du territoire lévisien. Quand on fait un plan d'urbanisme, c'est qu'on organise les activités sur notre territoire et on n'implante pas un chaos qui fait que tout est permis n'importe où.
Maintenant, une histoire qui donne froid dans le dos, surtout à Québec, parce qu'en 2016, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, il y avait un individu qui était entré dans des résidences de l'Université Laval, qui faisait les portes dans les résidences, avait fait des attouchements. Donc, ça rappelle vraiment des mauvais souvenirs quand on apprend qu'il y a un individu du côté de Sainte-Foy qui a fait exactement la même chose. Il est allé de porte en porte pour vérifier lesquels étaient barrés, débarrés, est entré à l'intérieur d'une des résidences, d'un des appartements qui était débarré, et aurait fait au moins une victime. Ce qui est encore plus effrayant que ça, Marie-Christine, c'est que l'individu aurait fait plusieurs victimes, selon la police de Québec. Je vous invite à écouter ce qui suit.
Il avait commis une introduction par effraction dans le secteur de Sainte-Foy. Par enquête sur place, les policiers ont été en mesure de constater que non seulement il avait fait une introduction par effraction, il avait également commis une agression sexuelle auprès d'une victime.
Et maintenant, du côté du film Mauricie, beaucoup plus positif cette fois-ci.
Ah oui, on va parler. L'année
passée, on vous parlait de J'ai mon appart. J'ai mon appart, c'est un milieu de vie supervisé pour les gens qui sont atteints de déficience intellectuelle ou de troubles du spectre de l'autisme. Il y a 11 locataires en Mauricie qui bénéficient de ça. Et ils ont tellement aimé leur expérience, Marie-Christine, dans la dernière année, qu'ils ont tous décidé de renouveler leur bail. Donc, eux, ils sont capables de travailler grâce à ça, de collaborer. Il y a des belles amitiés qui se sont créées. Dans le reportage, notamment, on apprend qu'il y a une personne atteinte d'un trouble du spectre de l'autisme et une personne atteinte de trisomie qui sont devenues les meilleures amies du monde et qui parlent de ce qu'ils cuisinent ensemble, que ce soit un craft dinner. Ils parlent de leur travail, des amitiés qu'ils ont créées. Et en plus, cette semaine...
Ça fait du bien.
Et puis en plus, cette semaine, Marie-Christine, c'est la semaine de la déficience intellectuelle. Donc, de voir qu'on prend des initiatives de la sorte dans nos régions pour tenter d'offrir plus d'accessibilité aux gens atteints d'une déficience intellectuelle, bien, ça démontre qu'il y a quelque chose à faire. Puis, on rappelle également que ces gens-là, bien, c'est une main-d'œuvre qui est extrêmement compétente, en pleine pénurie de main-d'œuvre. Ces gens-là sont capables de combler des postes en service à la clientèle dans différents domaines. Alors, je vous propose de voir tout ça et bien plus au fil, dans votre fil local, dans les prochains instants.
Jean-Simon, bonne émission. Merci beaucoup.
Au revoir, bon week-end.
Merci, toi aussi. Le président des États-Unis, Joe Biden, et Justin Trudeau viennent tout juste de terminer leur allocution, ce fameux point de presse qui faisait suite au discours de M. Biden. Tout de suite, je joins à Ottawa en direct mon collègue Étienne. Alors, Étienne, Joe Biden et Justin Trudeau sont revenus, évidemment, sur l'entente pour fermer le chemin Roxham.
Absolument. Ils ont été questionnés notamment sur le fait que c'est une entente mise à jour là, sur les pays tiers qui est négociée depuis des mois. C'est ce qu'on apprend aujourd'hui. Et donc, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas été annoncée avant cette entente modifiée qui permettra justement de fermer le chemin Roxham et de renvoyer bien, ces migrants, ces demandeurs d'asile vers les postes frontaliers? C'est ce qui va arriver à partir de minuit une ce soir. Donc, pourquoi ça n'a pas été annoncé avant alors que ça se négocie depuis des mois? Justin Trudeau est resté évasif, mais il a dit que c'est une entente améliorée qui va tout changé. Et Joe Biden l'a appuyé là-dedans en disant que ce type de changement-là avait amélioré la situation de l'immigration illégale aux États-Unis. Écoutez un peu ce qu'il avait à dire dans ce point de presse qui vient juste de se terminer.
À partir de minuit ce soir, les policiers, les agents frontaliers vont renvoyer les ressortissants qui traversent la frontière de manière irrégulière au poste frontalier canado-américain le plus proche. Nos équipes ont travaillé fort pour en arriver à cet accord. Tout ce travail va permettre de dissuader la migration irrégulière à notre frontière commune pendant qu'on augmente l'immigration régulière.
Étienne, Joe Biden a livré un discours, je le disais, très suivi devant le Parlement.
Absolument, c'était toute une image de voir l'homme le plus puissant de la planète dans notre Parlement canadien parler, donc, oui, à nos parlementaires, mais à plusieurs invités, notamment d'anciens premiers ministres comme Jean Chrétien. Il y avait également les deux Michael là, qui ont été emprisonnés en Chine. C'était une image symbolique dans le contexte actuel qu'on connaît. Joe Biden a dit que les citoyens ne doivent pas être utilisés comme des monnaies d'échange. C'est le message qu'il a envoyé aux deux Michael en les saluant. Et Joe Biden, aujourd'hui, a vanté la coopération entre le Canada et les États-Unis. On sait qu'on irait ensemble sur la Lune, qu'un Canadien serait dans la prochaine navette sur la Lune. Et puis, il a parlé également de l'économie canadienne et des semi-conducteurs. On aura des nouveaux liens ensemble. Écoutez Joe Biden.
The IBM plant in Bromont, Quebec is the largest semiconductor packaging and testing facility in North America. Chips made in Vermont. Chips made in Vermont. In upstate New York are shipped to Bromont to be packaged in electronic components. But now Bromont is expanding with the support of the Canadian government. And there's going to be a lot more work to do thanks to the Bipartisan Chips and Science Act I signed into law last year.
La sécurité est imposante, c'est clair, au centre-ville d'Ottawa pendant ce temps-là, Étienne.
Absolument, absolument. Tout un quadrilatère qui est fermé autour du Parlement. Il y a évidemment tout ce groupe de voitures qui accompagnent le président, les services secrets américains qui sont mobilisés également, les a vus. C'est assez impressionnant. Les citoyens qui ont été maintenus à l'écart là, pendant toute la visite. Et ce soir, elle se termine, cette visite, déjà par un souper d'État avec 500 convives. Il y aura plusieurs intervenants, les chefs des partis d'opposition, parce que finalement, Pierre Poilievre, le chef conservateur, y sera, malgré un petit imbroglio. Il y aura également plusieurs artistes comme Grégory Charles, et même une performance de Charlotte Cardin devant Joe Biden ce soir.
Ah, bien, non. Intéressant tout ça. Merci beaucoup, Étienne.
Bonne soirée.
Merci. Pour revenir sur la fermeture du chemin Roxham, je suis en compagnie de Love Joyce Amavi, togolais d'origine. Bonsoir.
Bonsoir.
Pourquoi on vous invite, évidemment, c'est que vous-même, en 2017, vous avez décidé de changer de vie et donc d'emprunter ce chemin Roxham. D'abord, comment vous réagissez à la fermeture?
Ben, j'aurais pu trouver cette fermeture pas tout à fait intéressante s'il n'y avait pas eu, dans le renouvellement de l'entente entre les tiers pays sud, la mention que 15 000 personnes vont pouvoir venir demander l'asile de façon régulière, comme l'a dit le Premier ministre, aux entrées de frontières régulières entre les États-Unis et le Canada. Ben, ce qui revient à dire un peu que la fermeture du chemin Roxham est symbolique. Ça permet de dépassionner le débat sur le sujet parce que ces derniers jours, ces derniers mois, on a eu beaucoup de...
Mais comment ce chemin-là a changé votre vie?
Bien, parce qu'à l'époque, on n'avait pas la possibilité de venir demander l'asile au Canada en fonction de l'entente des tiers pays sûrs et on était obligé de rester aux États-Unis. Moi, à l'époque, je pensais que les États-Unis n'étaient pas un pays sûr, parce qu'il y avait une prolifération d'armes à feu et une certaine liberté de les utiliser. Et je ne voulais pas vivre dans une société comme ça. Il faut se rappeler qu'en 2017, c'était le président américain lui-même, Donald Trump, qui faisait la chasse aux gens, les traitant de tous les noms d'oiseaux qui pouvaient passer dans son vocabulaire. Et ce qui a fait que, en réponse au tweet du Premier ministre Trudeau disant que le Canada pouvait accueillir les gens qui fuyaient les persécutions, pouvaient aller au Canada.
Mais en 2022, il y a quand même 40 000 personnes. C'est record, finalement, l'an passé. Donc, est-ce que vous pensez que cette décision-là, finalement, va amener peut-être trop de gens au poste régulier?
D'abord, en 2022, ce n'était pas un record. Il faut savoir qu'en 2017, 18 et 19, c'était autour de 15 000, 17 000, 18 000. Sauf qu'en 2020 et 2021, à cause de la pandémie, ça a été fermé. Ces deux années-là, il n'y a eu que 7 000. Donc, il faut penser le chiffre de 40 000 sur les trois années passées et non le concentrer sur le 2022.
Oui, bien sûr.
Alors, en revenant à un chiffre médian de 15 000, on est un peu dans la moyenne de gens qui passent par la frontière et qui, avant, venaient dans un chemin irrégulier pour demander. Aujourd'hui, ils vont pouvoir aller faire leur demande aux frontières régulières, comme ça se fait dans les aéroports. Donc, on sera toujours autour de 15 000. C'est ça qui me, disons...
Vous réconforte.
Me réconforte un peu, parce que les autres aussi pourront avoir la possibilité de ne pas rester aux États-Unis, qui n'est pas un pays sûr, mais de pouvoir venir demander l'asile au Canada, où on a quand même une société plus bienveillante que ce qu'on a aux États-Unis.
Merci beaucoup d'avoir témoigné ce soir.
Merci à vous et à très bientôt. Merci. Au revoir. Je vous laisse une copie de mon livre.
Merci, c'est gentil. De la zoothérapie pour aider des jeunes handicapés, un projet dont on vous parle au retour. On revient sur la visite de Joe Biden au Canada avec notre collaboratrice et analyste en politique américaine, Valérie Beaudoin, qui est présentement à Ottawa. Bonsoir, Valérie.
Bonsoir, Marie-Christine.
Donc, Joe Biden qui a prononcé un discours très attendu à la Chambre des communes cet après-midi. Qu'est-ce qu'il faut en retenir de ce discours?
Écoute, on était dans l'humour, on était dans la légèreté, on était justement avec un Joe Biden qui semblait très heureux d'être au Canada, un peu un retour à la normale après des années de Donald Trump où, premièrement, il ne s'est pas adressé à la Chambre des communes, il n'a pas fait de visite officielle. Donc, pour moi, c'est le retour à la normalité. Et bon, malgré son retard, là, ça, je pense que ça déplaisait à plusieurs aujourd'hui, c'était quand même de dire, bien, vous allez être le Canada, comptez sur nous, les Américains allons être derrière vous pour le reste de votre vie. Hein. C'était carrément ça. On avait une espèce de discours sur le très long terme en disant qu'on était des alliés de toujours et que c'était important, que oui, il y avait de la compétition, mais qu'on était en collaboration surtout entre les deux pays.
Oui, il y avait quelque chose comme une lune de miel, on dirait, entre les deux.
Oui, pas de petites pointes, même si dans les questions au point de presse, là, on essayait de voir si le président Biden allait être critique de Justin Trudeau. Pas du tout. On lui disait « Je comprends ses raisons, il a raison, on comprend la logique de Justin Trudeau ». Donc, on était dans le ton où tout est parfait. Lune de miel, je trouve que c'est vraiment la bonne expression. Il n'y avait pas de chicane. Et tout ce qui était le dossier économique, le dossier d'Haïti qui était épineux et tout ça, on semble avoir vraiment réglé. Et on est dans le positif et non dans le négatif en disant qu'on travaille ensemble avec des valeurs communes. Pourquoi? Pour l'environnement, pour l'économie et pour la sécurité. Là, c'est vraiment pour moi les trois piliers qui ont été répétés maintes et maintes fois aujourd'hui.
Oui. Et puis, il y a eu ce point de presse. J'en parlais avec Étienne de Joe Biden et Justin Trudeau tout de suite après le discours. Qu'est-ce que tu as retenu de ce point de presse?
J'ai retenu qu'en fait, on a un petit peu redit la même chose qu'à la Chambre des communes, finalement. Là, c'était les mêmes déclarations avec un petit peu plus de détails. On a eu les détails, la confirmation, bon, des millions qui sont envoyés pour la police nationale haïtienne, pour les aider, entre autres. Ce que je retiens, c'est surtout la question, justement, d'un journaliste, à savoir, est-ce que vous êtes déçu, M. Biden, que le Canada ne s'implique pas plus en Haïti? Parce qu'on sait que c'était la demande, puis on pensait qu'elle allait même avoir une espèce de transaction entre les deux, de dire, on vous donne le chemin Roxane, on règle ce dossier-là, mais vous réglez en Haïti. Il nous a dit non. S'il y a une intervention en Haïti, ça ne sera pas militaire avec le Canada, on comprend. Ça va se faire avec les Nations unies. Donc, il y aura une collaboration peut-être avec eux à venir. Mais sinon, les deux s'entendaient bien. Une petite blague sur TikTok et Justin Trudeau qui disait que ses enfants sont bien déçus de ne plus avoir accès aux réseaux sociaux parce que ça, c'était une des questions qui a été posée par les journalistes. Très peu de questions, d'ailleurs, dans un contexte comme ça qu'on peut poser au président américain et au premier ministre.
On le comprend. Valérie, merci beaucoup.
Merci. Bonne émission.
On change complètement de sujet. Des jeunes handicapés, des personnes handicapées de l'Est de Montréal profitent de la présence apaisante d'un chien nommé Curie. La séance de zoothérapie a lieu une fois par mois au grand bonheur des participants. Lily Mercure a été témoin des bienfaits de cette activité.
C'est du bonheur, ça?
Tu me le dis à ta
Tout le monde est là. Ah, un petit groupe aujourd'hui. Ce qu'on voit dans nos activités, c'est beaucoup de bonheur, beaucoup de bien-être, beaucoup d'apaisement, aussi de la stimulation, que ce soit au niveau moteur, que ce soit au niveau cognitif, au niveau social, tout le côté social de l'activité.
C'est des personnes duquel on s'occupe beaucoup, mais qui n'ont pas nécessairement la chance de s'occuper eux-mêmes de quelque chose. Et je pense que c'est l'opportunité qu'on leur donne présentement, de pouvoir être en espèce de relation d'aide avec le petit animal qui est le chien.
Les oreilles.
C'est une activité réalisée dans le cadre d'un projet mis sur pied en 2020 qui permet aux personnes handicapées âgées entre 21 et 35 ans de continuer à aller à l'école. Ça évite ainsi aux parents de devoir placer leur enfant en CHSLD ou de devoir se retirer eux-mêmes du marché du travail pour en prendre soin.
Notre enfant est en sécurité dans un milieu adéquat qui respecte ses capacités et surtout qui lui permet de socialiser et aussi de faire de nouveaux apprentissages, parce que ça a l'air de rien, mais c'est pas parce qu'ils sont rendus à 21, 22, 23 ans qu'ils apprennent plus rien. Au contraire, je dirais que Joanie, depuis les 6 mois qu'elle est ici, elle a énormément progressé.
Est-ce que tu veux lui dire bonjour?
Près de 20 personnes bénéficient du service depuis bientôt 3 ans dans le cadre d'un projet pilote. Il doit être réévalué en avril et les intervenants espèrent que le ministère de la Santé et des Services sociaux va en faire un programme permanent.
Vanessa, est-ce que tu as aimé l'activité avec Curie?
Oui.
Est-ce que tu aimes les chiens?
Le gros. Non, mais le petit. Oui.
L'activité est peut-être juste une heure, mais l'effet peut quand même perdurer dans la journée, dans la semaine. On laisse des photos, les éducateurs peuvent faire des liens toute la semaine, reparler de Curie.
Joanie, elle aime tout ce qui est ludique, donc le petit chien est très drôle. Au début, elle aimait pas trop ça quand il s'approchait d'elle, parce que c'est une nouveauté, ça entre dans sa bulle. Il y a beaucoup aussi de défense tactile, donc ça aussi, c'est quelque chose qui a été travaillé avec elle, puis maintenant, bien... Elle aime bien voir le petit chien arriver à l'école, ce qui a plusieurs semaines, elle aurait refusé et elle aurait repoussé le chien.
On a vu tout à l'heure à quel point il y a de nombreux médecins qui sont au bout du rouleau. Tout de suite, j'en discute avec notre collaboratrice Geneviève Peterson, parce que Geneviève, au cours des 2 dernières semaines, tu as fait des allers-retours dans le système hospitalier et ça a été tout un périple.
Oui, disons que je comprends pourquoi les médecins sont à bout. 2 semaines où j'ai pu expérimenter les aléas du système hospitalier. Puis, c'est pas juste les médecins qui sont à bout, Marie-Christine, c'est ce que j'ai envie de te dire. Les gens qui font face à ce système-là, particulièrement à l'urgence, moi, j'ai fréquenté des urgences montréalaises depuis 2 semaines. Un médecin pour 43 patients, Marie-Christine, la nuit. Des patients qui, je le rappelle, se présentent à l'urgence pour des situations urgentes et moins urgente, là, quand même, il faut le dire. J'ai attendu en tout 30 heures sur 2 jours. J'ai dormi sur le plancher, imagine-toi donc.
Mais la question, est-ce que ta fille va mieux au moins?
Oui, c'est ça, j'étais là pour ma fille. Elle est sortie aujourd'hui de l'hôpital. Oui. On a fait 2 hôpitaux en tout. Il faut savoir que c'est pas partout pareil, là, quand même. Mais il y a des... Justement, le premier hôpital où je me suis pointée, des médecins à bout, des infirmières qui me disaient, moi, ça fait 9 ans que je travaille ici. Ça fait 9 ans qu'il manque 20% des effectifs. Donc, on les comprend d'avoir de la détresse psychologique. On comprend le nombre absolument effarant de congés de travail. Mais moi, je comprends tout ça. Mais en même temps, je suis un peu tannée de comprendre.
Ben oui, c'est pas parce qu'on comprend que c'est acceptable.
C'est parce qu'on on dirait qu'on nous enjoint un peu à endurer des choses qui sont indignes. Moi, j'avais l'impression de ne pas être en sécurité au moment où je me suis pointée dans certaines urgences montréalaises. Bien, ma fille, plutôt pas moi. J'avais l'impression aussi qu'on pouvait en échapper parce que, justement, les gens, on n'a pas d'effectifs, les gens sont à bout. Donc, vraiment, là, oui, on est tanné de comprendre. Puis je sais qu'on répète, là, il faut faire quelque chose, mais là, c'est vrai, il faut vraiment faire quelque chose parce qu'à un moment donné, il va y avoir des accidents.
Bien, c'est clair, puis ça devient un peu stressant pour les patients qui se pointent là, comme toi. Tu sais, c'est un véritable cri du cœur, finalement, que la maman en toi nous parle ce soir.
Oui, la maman, puis les infirmiers aussi, les infirmières qui m'écrivent pour me dire qu'ils se sentent pas toujours super en danger, tu sais, c'est ça, exactement.
Comprend. Merci beaucoup, Geneviève.
Merci.
Le premier ministre François Legault a réagi à la fermeture du chemin Roxham.
Ben oui, juste un petit peu après 17h30, donc à la suite de l'annonce officielle du premier ministre Justin Trudeau et de Joe Biden. Tout de suite, on peut l'écouter, sa réaction était assez content.
Vous avez devant vous un premier ministre du Québec qui est heureux de savoir que ce soir à minuit, enfin, le chemin Roxham va être fermé. Là, je pense que c'est une belle victoire, une très belle victoire pour le Québec.
Et ce soir, au fil 22, évidemment, tu vas poursuivre la couverture de la visite présidentielle à Ottawa.
Voilà, exactement. Donc, ce soir, il y aura un dîner donc officiel avec notamment Justin Trudeau, Joe Biden.
Étienne.
On va les rejoindre,
ouais.
C'est ça.
Ouais, Étienne va souper avec eux.
Il est au bout de la table. Il gère le souper. Non, fait qu'on va parler justement à Étienne, qui va être en direct d'Ottawa. On va également avoir Dominique Vallière, qui va revenir, en fait, sur la fermeture du chemin Roxham. Puis, on n'en a pas parlé quand même de toute la journée, mais juste préciser que les premières dames aussi, Jill Biden, Biden, puis oui. Sophie Gricard-Trudeau, ils ont fait des activités aussi aujourd'hui. Ils sont allés visiter une exposition au Musée des beaux-arts du Canada. On les oublie, ils sont importants.
Ah oui, il faut en parler. Merci beaucoup. Bon bulletin à toi.
Merci.
Excellente soirée à notre antenne. On se retrouve lundi, 17h.